Chapitre 37. Bonsoir. J'espère que vous avez passé une agréable journée. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce 37e épisode de la mythologie. Apollon, 4e épisode. Nous avons appris dans les épisodes précédents que le dieu Apollon est un dieu vengeur. Il suffit de se rappeler le sort que subirent Marsyas, le joueur de flûte, et Midas, le roi de Phrygie. Cependant, la confrontation ne tourne pas toujours à l'avantage du dieu. Zeus à la rescousse de son fils. Quand Héraclès s'empare du trépied de Delphes pour faire pression sur la Pythie, Apollon accourt à la rescousse de sa prêtresse. Le héros se serait enfui avec le trépied si le dieu n'avait pas appelé à l'aide son père Zeus, qui intervint en envoyant un trait de foudre. Apollon est aussi un dieu bâtisseur. Platon reconnaît ce rôle à Apollon et conseille à tout fondateur d'un État de se référer aux lois établies par le dieu. Il s'agit des lois qui regardent la fondation des temples, les sacrifices qui y sont liés et, en général, le culte des dieux, des démons et des héros, et aussi les tombeaux des morts et les honneurs qu'il faut leur rendre afin qu'ils nous soient propices. Je vous avais parlé des amours d'Apollon. Eh bien, nous allons rentrer maintenant directement dans le sujet. Réputé pour sa grande beauté, Apollon est paradoxalement assez malheureux dans ses amours, car esthétique et sentiments amoureux ne font pas toujours bon ménage. Celles-ci ont pour objet des nymphes, des mortels, hommes ou femmes, mais très rarement des divinités majeures. Les amours avec la nymphe Cyrène. Cyrène, avec un C, qui signifie « reine souveraine » et fille d'Hypsée, roi des Lapithes. C'est une nymphe chasseresse d'une beauté extraordinaire. À force, vous allez finir par ne plus me croire, à moins que vous pensiez au contraire que la beauté illumine ceux qui la regardent. Apollon la voit dompter un lion sur le mont Pélion qui menace les troupeaux de son père. Là, devant les performances de cette nymphe, il en tombe éperdument amoureux. Il fait part de ses sentiments au centaure Chiron, qui les approuve. Nous sommes parfaitement dans la lignée d'une Lara Croft. Encouragé par la créature mi-homme, mi-cheval, Apollon se déclare à la jeune fille, la séduit et l'enlève pour la transporter en Libye dans un char d'or. Là, elle reçoit du dieu la souveraineté sur la région que nous connaissons déjà. De lui, elle aura deux fils, Aristée, qui cultive l'olivier, fait du fromage et s'occupe des abeilles pour le bien des hommes, et le devin Idmon. En Crète, Aristée fait des merveilles au quotidien. Mais la belle nymphe n'est pas fidèle et, un jour, elle part avec Arès, le fort et viril fils de Zeus et d'Héra et dieu de la guerre. Dommage pour Apollon. Marpessa fait son choix. Les autres amours du dieu sont moins heureuses. Marpessa, celle qui arrache, est la fille d'Evnos et d'Alcippé. Elle fut remarquée par Apollon et Idas qui désiraient tous deux l'épouser. Evnos eut l'idée d'organiser une course de chars pour départager les deux prétendants. Grâce au char ailé prêté par Poséidon, Idas l'emporta. Evnos désira lui aussi se mesurer à son futur gendre, mais voyant la victoire lui échapper, il préféra se jeter dans le fleuve Lycormas, qui désormais prit son nom. Apollon, qui ne s'avouait pas vaincu, enleva Marpessa et la transforma en Martin pêcheur. Alors, les deux prétendants en vinrent aux mains et Zeus intervint en demandant à la jeune fille de choisir elle-même. Craignant qu'Apollon ne l'abandonne quand elle serait devenue vieille, elle choisit Idas. Cette histoire d'Apollon pourra peut-être vous consoler un jour, car, vous l'avez remarqué, le présent a une fâcheuse tendance à se transformer en passé et par là même se couvrir de la poussière des ans. Cependant, je ne suis pas si sûr qu'elle ait fait le bon choix, car très vite, elle se retrouve veuve. Idas et Lyncé, son frère, moururent au cours du combat contre leurs cousins Castor et Pollux. Daphné et le laurier rose. Il existe plusieurs traditions concernant ses origines, mais toutes sont d'accord sur un point. Daphné était une très jolie jeune fille. Leucippos, fils de Nomaos, roi des Lydes, fut le premier de ses soupirants. Il était parvenu à s'introduire parmi les suivantes d'Artémis en se déguisant avec des vêtements féminins. Et il se faisait appeler Eno, une fille d'Enomaos. Rapidement, il devint, sous ce déguisement, le confident de Daphné qui ne s'était aperçu de rien. Apollon, jaloux et connaissant la vérité, conseilla aux chasseresses de se baigner nues dans une source à l'onde claire. Bien entendu, Leucippos s'y refusa et l'imposteur fut ainsi découvert. Le malheureux jeune homme fut battu à mort par les vierges en colère. Mais Apollon s'était moqué d'Héros. Alors ce dernier lui déclocha une flèche d'or, celle qui rend follement amoureux, et réserva une flèche de plomb à Daphné pour la rendre indifférente. Malgré ses talents de devin, Apollon ne s'aperçut de rien, car tout le monde sait que l'amour rend aveugle même les plus clairvoyants. Il était de plus en plus amoureux de Daphné. Elle repoussait toujours ses avances. Alors, il la poursuivit à travers bois et prés. Alors qu'Apollon allait la rattraper, elle pria Zeus de l'aider et elle fut promptement transformée en laurier. Daphné en grec. Désolé de sa métamorphose, Apollon en fut réduit à cueillir une branche pour orner sa lyre et son carquois. Et il fit du laurier son arbre sacré. Vous qui appréciez tant les lauriers roses qui longent les routes crétoises, pensez que ce sont des nymphes qui ne connaîtront jamais l'amour à cause des plaisanteries d'Apollon qui ont blessé Cupidon. Sachez également que c'est un poison pour les chevaux. Il provoque prostration, arythmie cardiaque et troubles digestifs dès 50 grammes. Trois symptômes qui, comme par hasard, ou plutôt providence, excusez-moi, sont signes de l'amour. Coronis, l'infidèle, la mère d'Asclépios. Ses amours avec Coronis, fille de Phlégias, roi des Lapithes, ne finissent pas mieux. Enceinte du dieu, elle le trompe avec le mortel Ichis. Apollon, maître de la divination, perçoit la vérité qui lui est également rapportée par un corbeau. Il envoie alors sa sœur Artémis pourfendre l'infidèle de ses flèches. Mais prise de pitié pour l'enfant à naître, elle arrache ce dernier du ventre de sa mère qui se consume sur le bûcher. Elle porte le jeune Asclépios chez le centaure Chiron qui l'élève et lui enseigne l'art de la médecine. Asclépios, fils de Coronis et Apollon, est le dieu de la médecine. Il meurt foudroyé par Zeus pour avoir ressuscité les morts avant d'être placé dans le ciel sous la forme de la constellation du Serpentaire. La médecine saurait-elle aussi guérir des feux de l'amour? Apparemment, ça n'a pas été le sujet des recherches d'Asclépios. Les amours de Cassandre et d'Apollon. Apollon s'éprend également de la princesse troyenne Cassandre, fille du roi Priam. Cassandre était réputée pour sa grande beauté, semblable à la blonde Aphrodite. Elle eut de nombreux soupirants comme Othrynié de Cabessos en Thrace, qui fut tué par Idoménée, ou le prince phrygien Choroébos, fils de Mygdon, le roi des Bébrycéens, tué sous ses yeux lors du siège de Troie. Ils avaient apporté leur soutien à Priam, à condition toutefois de pouvoir l'épouser un jour. Priam utilisa sa beauté pour convaincre Eurypyle, fils de Téléphe, de venir combattre à ses côtés en lui promettant sa fille en mariage. On raconte que, très jeune, alors que leurs parents donnaient une fête en l'honneur d'Apollon, Timbrae, Cassandre et Hélénos s'endormirent dans le temple où ils ne furent retrouvés que le lendemain, entourés de deux serpents qui leur léchaient les oreilles et la bouche. Cet épisode expliquerait le don de divination qui toucha les deux enfants lorsqu'ils grandirent. Le don différent pour chacun. Si Hélénos était capable d'interpréter des signes pour lire l'avenir, Cassandre était habitée par le dieu qui rendait l'oracle par sa bouche. Elle fut aussi aimée d'Apollon et elle se promit à lui en échange de l'apprentissage de l'art de la divination. Mais, une fois instruite, elle n'accorda à Apollon qu'un simple baiser en se moquant de sa naïveté. Le dieu furieux lui cracha dans la bouche et l'empêcha ainsi d'être cru même par sa propre famille. C'est pourquoi, alors que sa mère est à nouveau enceinte, Cassandre lui prédit que le fruit de sa chair, Hélène, causera la perte de Troie. Sa mère écarte donc son frère Paris de la ville si chère à ses yeux. Elle prévient Paris, à son tour, que son voyage à Sparte l'amènera à enlever Hélène et causera ainsi la perte de Troie. Lorsque Paris ramène Hélène à Troie, Cassandre est la seule à prédire le malheur. Les Troyens étaient subjugués par sa beauté, mais personne ne l'avait cru. Quant à la manière dont Cassandre a terminé sa vie, elle a été largement punie de son parjure avec Apollon. Les malheurs de Cassandre. La beauté n'apporte pas que la foule des prétendants. Pendant que tous les soldats grecs envahissent la ville de Troie, Cassandre, qui s'est réfugiée près du Palladium, est violée par Ajax, fils d'Oïlé, alors qu'elle s'agrippe à la statue d'Athéna. Pour expier cet acte profanatoire, les Locriens sont condamnés à envoyer chaque année deux jeunes filles vierges à Troie, destinées à être des servantes du Palladium. Si les habitants s'en emparent avant qu'elles arrivent au temple, elles sont immolées. À la suite du drame, Cassandre est retrouvée par les Grecs qui décident de l'épargner à la demande d'Agamemnon qui la trouve à son goût. Durant le voyage qui les ramène à Mycène, elle a de lui deux enfants, Télédamos et Pélops. Nous savons que la route est longue jusqu'au Péloponnèse et qu'après la guerre, la chair est assoiffée et ardente. Rentré dans son royaume, il est assassiné par Égiste, l'amant de sa femme Clytemnestre, qui est furieuse de cette liaison et de l'immolation de sa fille Iphigénie. Elle poursuit Cassandre et l'assassine à son tour. Cassandre avait au préalable eu une vision de son meurtre et de celui d'Agamemnon, mais ce dernier n'avait pas voulu la croire. Elle meurt sans regret, ayant assisté au massacre de sa famille. Ses dernières pensées furent-elles pour Apollon, lui demandant de la pardonner ? Nous ne le saurons jamais. Il se fait tard, et je pense qu'il est grand temps de se reposer. Alors, flèche d'or ou flèche de plomb ? Cupidon est un malin qui s'amuse parfois du malheur des autres. Je vous laisse reprendre le fil de vos rêves qui sont souvent le prolongement allégorique de toutes les pensées qui se bousculent dans vos journées hyperactives. Merci de rester fidèle à nos contes mythologiques. La prochaine fois, dans l'épisode 38, nous continuerons à parler des amours, cette fois-ci masculines, d'Apollon. Je me permets de vous souhaiter, en attendant, une douce et agréable nuit.